Melody, la radio vintage forever.
Elle met du soleil sur la France depuis près de 60 ans. Une aventure a commencé en 1966 avec Éric Chardenne, son compagnon à la scène comme à la ville jusqu'au milieu des années 70. Ensemble, ils formeront l'un de nos duos les plus célèbres pour nous offrir des chansons made in Stone et Chardenne. Tant de souvenirs nous viennent à l'écoute de leur succès et qui plongent petits et grands dans une France joyeuse. 50 ans après le duo, j'ai le plaisir de recevoir une chanteuse qui ne change pas, comme le prix des allumettes. Aujourd'hui, sur le plateau de Mélodie Radio, il y a de la joie, il y a du soleil, il y a du ciel bleu partout, il y a des oiseaux dans nos cœurs qui font boum. Stone, bonjour.
Bonjour Gilles.
Comment allez-vous?
C'est très très bien, merci.
Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Mélodie Radio. Vous connaissez le principe, je vous en ai parlé un peu juste avant. Il faut nous donner votre plaisir démodé de la chanson française. Une chanson que vous pensez démodée, mais que vous adorez.
Alors justement, je me suis posé la question, parce qu'il y en a énormément dans ce cas. Et alors, peut-être je vais vous citer une chanson, mais qui n'a pas été un succès. C'est pas gênant.
Mais hein, allez-y, voilà. Au contraire.
Parce que... on en rigole parce que quand on fait les spectacles, mon mari actuel, Mario Dalba, intervient également et il avait sorti une chanson il y a bien longtemps qui s'appelait Autoroute à 6.
Oui.
D'ailleurs, qui a été tournée sur l'autoroute à 1 parce qu'en fait, c'est l'équipe de Lille qui lui avait proposé de faire un clip. Et cette chanson, il la chante à l'occasion quand on fait des spectacles. Et c'est une chanson qui est, bon, il y a un côté un petit peu rétro.
Le pendant de National 7 de traîner.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et ça s'appelle Autoroute à 6, voilà. Donc, cette chanson l'accompagne depuis bien longtemps. Et à chaque fois, ça devient un petit gag, quoi, dans le tour de chant.
Eh bien, voilà. C'est un très bon choix. Ouais. Autoroute à 6 de Mario Dalba.
C'est ça.
Bon, on va revenir, vous en doutez, sur votre carrière.
Bien sûr.
60 ans de carrière. Voilà, il y a un plaisir qui n'est pas démodé, c'est... vos chansons, votre célèbre duo, vous le voyez autour de moi, vous le voyez là, sur le bureau, avec Éric Chardenne.
Oui.
Voilà, pas beau ça?
Ah, oui.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le cœur des Français depuis tant d'années?
Eh bien, c'est très émouvant en même temps, c'est très, très joyeux, voilà. Moi, je sais que je bouge beaucoup, je fais beaucoup encore de spectacles, je fais beaucoup de salons du livre, parce que j'écris des livres en même temps. Ouais. Donc, je rencontre les gens, voilà, c'est ça. Je rencontre le public et bien sûr, la plupart sont des gens, les seniors, comme on dit, quoi, des gens de notre génération. Mais on constate qu'à chaque fois qu'on se rencontre, toutes ces chansons, pas que les nôtres, hein, les chansons de toute cette génération et même un peu après, ont accompagné des moments heureux de la vie. C'est ça qui est génial, c'est de se rappeler que ces chansons-là ont accompagné quand il y a des fêtes, il y a des anniversaires, des baptêmes, tout ce qu'on veut. Et c'est toujours lié à ça.
Il y a du Stone et Chardenne.
Ouais, et pas que nous, hein, je parle aussi au nom de mes camarades. Voilà. Et on a été comme ça quand même assez nombreux à faire des chansons qui ont touché le cœur des gens et qui les ont accompagnés pendant très longtemps.
Et oui. Tellement longtemps, regardez.
Ouais.
Si c'est pas beau ça. On le voit à la caméra, le coffret, l'anthologie, pour ne pas faire comme moi avec tous les
45 tours.
L'anthologie de Stone et Chardenne de chez Marianne Mélodie.
C'est ça.
Un beau coffret avec plein de chansons d'ailleurs.
Oui. Oh, ben, c'est Mathieu Moulin qui s'est attelé à la tâche et qui a fait un travail assez exceptionnel parce qu'il fallait déjà retrouver ces titres-là. Donc... c'était pas évident.
Dans tout ça.
Et surtout qu'il y a deux CD d'Éric et deux CD de moi. Voilà, donc il y a ce qu'il faut.
Alors, on va en revenir sur vos premières chansons. De toute façon, vous allez le voir. Au cours de cette émission, on va revenir sur plein de petites chansons, plein de petites Madeleine de Proust pour nos auditeurs. Alors, Stone, la chanson, tout a commencé dès l'enfance, avec une maman qui avait une très belle voix.
Oui,
elle vous a transmis le virus de la chanson.
Ah, complètement. J'ai été baignée dès mon plus jeune âge dans la variété. C'était la variété à l'époque. Hein. C'est tout ce qu'on aimait, tous les chanteurs de l'époque, les années 50. Hein. Moi, ça remonte encore au temps de ma petite jeunesse.
Ouais.
Et c'était quelque chose qu'on écoutait, mais on écoutait la radio beaucoup à l'époque. C'est ça qui est drôle. Mais il n'y avait pas la télé encore à l'époque. Hein. Et oui. Donc, on se rabattait sur la radio et puis on était là... On attendait impatiemment qu'ils nous diffusent les chanteurs qu'on aimait. Voilà, c'était Sacha Distel, c'était ces gens-là, c'était Johnny, les débuts, etc. etc. Ouais.
Et vous passez d'Eddie Constantine à Johnny,
à
parce
Johnny,
que vous étiez très rock. On peut le lire dans votre livre.
Bien sûr.
Et vous avez développé comme ça, entre chansons françaises et véritable connaissance de la variété.
Ah oui, j'étais bonne pour ça. Oui, oui. J'étais très... très au point, oui. Bah Johnny, là, bah c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les autres. Il a révolutionné complètement la chanson française. Hein. Faut reconnaître que quand il est arrivé, il a abattu à plate couture tous les chanteurs, quoi, c'est ça. Et on était extrêmement fans. Moi, je l'ai vu à ses tout débuts, c'était génial. En plus, j'ai des souvenirs précis. Je me souviens qu'il rentrait en scène, dans le noir, il allumait une... Maintenant, on ne pourrait plus faire ça. Il allumait une cigarette sur scène.
D'accord.
Et il mettait le briquet, on voyait son visage. Et là, waouh, c'était la folie, quoi. C'est génial.
Et vous attendiez son autographe?
Oui, ah bah bien sûr. J'attendais à la sortie des coulisses. Oui, oui, pour l'autographe que j'ai eu. J'en ai eu d'autres aussi, d'autres chanteurs. J'étais la fan typique.
La fan absolue de Johnny.
Absolue, oui, entre autres. Oui,
et
oui.
Vous aviez aussi ses posters dans votre chambre.
Bien sûr, évidemment.
Et il y a une histoire un peu moins marrante. Mmh. Une déchirure de posters peu entaché aussi vos... Voilà, vos rapports avec votre papa.
Bah oui,
ça vous a toujours marqué.
Quand on est adolescent, on est très focalisé sur les petites choses de la vie. Moi, j'étais très entière et c'était les posters, j'y tenais plus que tout au monde. Mais malheureusement, j'étais une piètre élève. Hein. J'étais vraiment pas bonne à l'école. Ça m'intéressait pas beaucoup. Et j'avais été renvoyée parce que j'avais amené un électrophone, mon Tepaz, le fameux. À la fin de l'année, au mois de juin, fin juin, où les cours étaient plus du tout, c'était tranquille. Et dans les récréations, on mettait les 45 tours de Johnny et des autres.
Ouais.
Et bien sûr, je me suis fait surprendre. C'était moi la grande responsable de ce chahut. Et la directrice de l'école a appelé mon papa en disant « C'est insupportable, votre fille s'est permis d'amener un électrophone et des disques. » Plus à l'époque, elle m'avait sorti des phrases dans le genre « Oui, votre Johnny, ben, dans l'année prochaine, on n'entendra plus parler. » Enfin, des trucs comme ça. Enfin, c'était des enseignants à l'ancienne, quoi. Et puis pareil, elle m'avait sorti des choses très méchantes. « Si vous pensez que vous pourrez faire comme lui, vous pouvez attendre longtemps, enfin des trucs comme
et
ça.
Pour,
quoi.
Et pourtant.
Oui, et pourtant. Du coup, mon papa, pour me punir, parce qu'il savait que c'est quelque chose auquel je tenais énormément, mes posters, la plupart étaient dédicacés, a tout arraché dans ma chambre, a tout réduit en petits morceaux, a tout brûlé. Alors évidemment, ça a été un peu difficile pour moi, déjà que j'avais des rapports un peu difficiles avec mon père, mais là, ça a été vraiment... Je lui ai pas pardonné, quoi.
Et cette institutrice, vous l'avez revue?
Non, jamais. Non, non, non. C'est la directrice, en fait, qui était pas gentille du tout. Oui, oui, non, je l'ai jamais revue. Non.
Quelques années plus tard, vous vendrez près de 10 millions d'albums. Eric 14, c'est ça, le duo Froidi?
Oui, on ne peut même pas compter, on ne sait pas. N'importe.
Et en tout cas, vous découvrez Johnny, vous le suivez dans ses concerts.
Oui.
Et vous avez aussi beaucoup déménagé. Cette
oui,
partie,
beaucoup.
Vous me le disiez tout à l'heure, à Tourcoing.
Oui.
Et... À l'été 1965, ça y est, papa se réinstalle à Paris.
Il est muté à Paris, oui.
Et pour vous, c'est la délivrance.
Ah, ça a été un bonheur total, oui, oui, bien sûr.
Vous découvrez les boîtes de nuit?
Entre autres, bien sûr, bien sûr. Puis surtout à l'époque, on avait cette chance folle de même sans avoir aucun diplôme ou aucune spécialisation, on pouvait trouver du travail autant qu'on en voulait, quoi.
Ouais.
Donc moi, j'ai trouvé tout de suite du travail à l'Argus de la Presse. En plus, c'était un métier qui me plaisait bien. C'était sur les boulevards. Enfin, il y avait tous les avantages.
Et le matin, vous sortez en boîte de nuit,
oui,
vous adoptez cette fameuse coupe,
oui,
la coupe Stone. Alors, est-ce que vous l'avez raconté 100 fois, mais on s'en lasse pas.
Oui.
Votre idole?
Une de vos idoles. Il y avait après Johnny, enfin à peu près en même temps, il y avait les groupes anglais qui étaient omniprésents. Les Beatles, les Rolling Stones, les Who, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, quoi. Moi, je les ai vus beaucoup sur scène aussi. Quand ils venaient à Paris, je précipitais. Et puis voilà, donc Brian Jones, que j'adorais, quand même fondateur des Rolling Stones, je trouvais qu'il était génial à tout point de vue et je trouvais sa coiffure formidable. Donc j'ai dit tiens, pour me démarquer un peu des autres, je vais le copier tout simplement.
Et alors cette période, ça voit émerger celle qui deviendra donc la petite Stone. Mmh. Vous dansez avec vos copines dans une ancienne boîte de nuit, le Bus Palladium.
C'est ça.
Et on vous propose de passer une audition.
Mmh.
Et là, vous y allez avec un disque sous le bras. Écoutez.
Oui. Où va-t-elle?
Ouais. Vous l'avez dit, Ronnie Bird.
Ronnie Bird, j'adorais Ronnie Bird aussi, bien sûr. Il était tout à fait dans l'esprit de l'époque, quoi, bien sûr. C'était un chanteur français, mais qui avait adapté aussi des chansons des groupes anglais.
Mm-hmm.
Et qui avait le look aussi qu'il fallait, quoi. Donc moi, j'achetais ses 45 tours. Et le problème de l'audition, quand on passe une audition, c'est très joli parce que... Un auteur-compositeur va prendre sa guitare, comme Eric faisait, va aller gratter, montrer ce qu'il fait. Moi, j'avais rien de tout ça. Je faisais pas de chansons, je connaissais personne. Que faire? Et puis comment on peut pas chanter une chanson comme ça sans accompagnement, sans rien, ça rend rien. Donc j'avais complètement pris le disque et j'avais chanté par-dessus, tout simplement.
Et
c'est comme ça
que
l'audition s'est faite. Et puis donc après, les gens de la maison de disques ont décidé de me signer.
Vous êtes retenu, mais personne pour faire vos chansons.
Et
c'était
non.
Ça le problème.
Gros souci, gros souci.
Donc là, on est à peu près quoi? Au décembre 65.
Décembre 65, oui, c'est ça.
Et ouais. Pendant 4 mois, le contrat, c'était quoi? C'était 4 disques par an?
Voilà, 4 disques par an. 4 45 tours avec 4 titres. Donc, fallait déjà les trouver, les 4 titres.
Vous continuez votre petit bout de chemin.
Oui, oui,
et
oui.
Un jour, vous gagnez un concours. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent, je me suis demandé ce que c'était. Vous gagnez Miss Beatnik
ouais.
En 66.
C'était juste avant les hippies, quoi. C'était les premiers qui avaient entamé de faire la route, de partir aux Indes, voilà, toute cette nouvelle philosophie des beatniks, quoi, qui était bien sûr anglo-saxon pour la plupart, mais nous, en France, on trouvait ça fabuleux, quoi, génial. Donc Miss Beatnik, évidemment, c'était tout à fait dans l'air du temps. Et la grande chance que j'ai eue, c'est d'être vraiment élue Miss Beatnik. Et surtout, moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait comme prix un voyage à Londres.
Et oui.
Alors ça, rien que l'idée d'aller à Londres, pour moi, c'était fabuleux. Quoi.
Avec 100 francs d'argent de poche, vous écrivez.
Avec 100 francs d'argent de poche, qui était une somme à l'époque.
Ok. Et puis vous voyez passer, alors vous allez peut-être le raconter mieux que moi, mais vous voyez passer un monsieur, un petit tuban, qui est venu dans le jury.
Ah ben ça, c'est Eric, oui, la toute première fois, oui. Ben le pauvre, oui, on l'avait un peu contraint et forcé à venir à cette soirée, alors que lui, il n'avait pas spécialement envie d'y aller. Mais bon, ses copains, ils traversaient une période un peu difficile, ils se disaient, ils avaient déjà un moment qu'ils faisaient le chanteur.
Trois ans,
ouais. Et puis ça ne fonctionnait pas comme il voulait, il n'était vraiment pas heureux. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est bien raisonnable de continuer dans la chanson, etc. Alors, il est tombé, évidemment, ce soir-là, sur le concours. Et comme il était un peu pas bien dans sa peau, il s'est mis à boire, tout simplement. On lui a servi de l'alcool. Et puis, voilà, au bout d'un moment, il s'est écroulé. On l'a trouvé dans les toilettes, complètement écroulé. Donc, c'était pas... Disons, on n'a pas eu, ce jour-là, un feeling entre nous. Quoi.
Mais vous l'aviez déjà repéré, non?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment.
Oui, il y en avait d'autres, mais moi, il y avait Antoine, par exemple, qui est là, que j'adorais. Antoine,
d'accord.
Qui avait voté pour moi. Eric n'avait pas voté pour moi. Et puis, il y avait d'autres aussi, d'autres chanteurs, puis des journalistes, etc. Quoi. Donc, et c'est quand même quelques jours plus tard, quand il est revenu à Jeun, ce coup-là, qu'on a pu entamer un dialogue. Et c'est là, quand il m'a dit, moi, je fais des chansons, évidemment, c'était l'idéal.
Donc, vous avez un compositeur, vous sortez ça?
Voilà, c'est ça, oui. Oui, parce que les gens de la maison de disques tenaient absolument à faire des adaptations.
Oui,
mais c'était
que
le
des
cas
stones,
de tous les chanteurs du moment. Hein. Ils y tenaient, donc il fallait trouver des titres qui ne soient pas trop connus, parce que passer derrière les Beatles, ce n'était pas évident, ni les Rolling Stones. Alors on a trouvé deux titres moins célèbres que beaucoup de tubes de ce groupe. Et puis après, Eric a imposé deux chansons à lui.
Oui,
parce
ça a été le bras de fer.
Il prétendait qu'on pouvait faire, les Français pouvaient faire aussi bien que les Anglais, quoi.
Et donc vous voilà en 66,
oui.
Doté d'un contrat,
voilà.
D'un mari,
oui, parce qu'on s'est marié pas longtemps après.
Et voilà, et d'un compositeur.
C'est ça.
Vite se marier pour pouvoir partir en tournée d'été.
Ah bah il fallait, parce que mon père, sinon il m'aurait interdit. J'avais que 18 ans, hein. J'étais mineure.
Et ouais. Ben voilà, c'est comme quoi les rencontres, ça devait se passer.
Ah, ça devait se passer, ouais, absolument. Ouais.
Ça devait se passer comme ça. Et le duo, alors, on connaît peut-être l'histoire, il ne s'est pas fait tout de suite.
Non.
Eric, Chardin ne pensait pas du tout.
Non, on s'est fait pas mal d'années après, oui, on est resté, on a chanté séparément pendant 5 ans, quoi, bien sûr.
Et donc, avant que le duo se fasse, vous enchaînez les 45 tours.
Oui.
Regardez, là, il y en a tout plein, il y a celui-là.
Il y a celui-là, Vive la France.
Ah, celui-là, c'est celui qui a marché, on va...
Oui, il a bien marché, celui-là.
On va l'écouter.
Oui.
Alors, je vois pas si nos amis le voient, voilà. Vous enchaînez les 45 tours, et donc, Vive la France, parfait pour le 14 juillet, écoutez.
Oui, impeccable.
C'était une blague à la base.
Oui, c'était un gag. En fait, c'est Eric qui avait fait une chanson un peu désuète, quoi, pour l'époque, parce ouais. qu'on était en plein pop, musique pop, et là, d'un coup, c'est Vive la France. Mais on l'a pris au deuxième degré, quoi, quelque part, alors que ça a été, après, les gens l'ont le ressenti au premier, mais peu importe. Le principal, c'est que ça, je continue à la chanter, hein, ça a été un succès, quoi. Ouais.
Un succès, ouais, le premier, le 45 tours qui a vraiment décollé, et
ouais.
alors après, c'est, on y arrive, voilà.
Oui, le seul bébé, oui, oui, oui. Mais parallèlement, avait fait aussi un gros succès avec Le Monde est gris, Le Monde est bleu à
oui.
cette époque-là, en 68.
Tout à fait.
Voilà, donc on avait quand même chacun de notre voilà chacun notre petit tour de chant qui se tenait quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on n'était pas non plus parti pour faire un duo. Hein, c'était pas du tout à l'ordre du jour, du tout, du tout. Mmh. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'à l'époque. On disait que les duos, ça fonctionnait pas, que les gens aimaient pas ça, que c'était... Tous ceux qui s'y étaient essayés, ça avait marchoté, mais c'était pas le grand succès, donc... Puis Eric, pareil, il disait, moi, lui, il rêvait de faire carrière en solo, quoi.
Johnny,
c'était ouais. ça, la Johnny, oui, c'était son rêve.
Ouais.
Alors du coup, bah voilà, pourquoi pas, mais bon, sans plus, quoi.
Et il s'est retrouvé à chanter, oui. alors c'est... Est-ce que c'était fait exprès ou pas, sur mmh. cette chanson, le mmh. seul mmh. Bébé qui ne pleure pas,
mmh. Ben Riva et Thomas qui avaient fait le texte, Eric qui avait fait la musique, et c'était un titre pour moi. Mais c'est vrai que, alors on ne s'est plus rappelé qui avait suggéré l'idée qu'Eric chante aussi, enfin disons intervienne dans la chanson. C'est peut-être les auteurs, c'est peut-être notre producteur de l'époque, Charles Tallard, je ne sais plus. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'on a fait cette formule, Eric est intervenu, voilà. Et puis finalement, ben, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, quoi. Ça a été bien accepté, et puis ça a bien marché, on en a beaucoup vendu. Voilà, on a été les premiers surpris de du succès de cette chanson.
En 1971, écoutez.
Voilà.
Donc après ce coup d'essai...
Oui.
Charles Tallard a
voilà.
envie de
oui.
continuer.
Là, il nous a dit il faut absolument que vous fassiez un truc en duo à part entière. Hein.
Mais il y en a un qui ne voulait pas.
Mais Eric n'était pas du tout d'accord. Il dit non, moi ça ne me plaît pas. Non, les duos, ce n'est pas bien. Alors évidemment, que faire pour que ça ne marche pas? Et on va faire une valse, parce qu'une valse, c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire à cette époque-là.
Oui, c'était Tino Rossi, Jean Sablon.
Voilà, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Donc, Eric a tout fait pour faire une chanson qui ne marcherait pas. Mmh. Pour le faire.
Et cette chanson, c'est
La Ventura.
Voilà, La Ventura, finalement. Vous continuez à chanter, qui
oui,
un
toujours.
Tube énorme.
Ah oui, ça a été assez important. Oui, oui, oui.
Regardez, on va se la mettre un petit peu. Quel succès!
Oui, c'est vrai. Alors, on était les premiers surpris aussi de ce succès. À chaque fois, c'est toujours étonnant.
Et pourtant, personne ne voulait. Ça,
non,
vous l'avez dit dans le livre.
Non, c'est ça. Surtout qu'on n'avait pas eu vraiment un très bon accueil en radio de l'époque. Les gens, justement, trouvaient ça très, 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 très ringard.
Europe 1 disait la merde du mois.
La merde du mois, oui. Enfin, voilà. On a appris après des choses vraiment pas gentilles du tout. Et puis, voilà, on a quand même fait, on a essayé de faire la promotion, hein, comme tout bon chanteur qui se respecte quand on sort un disque. On a eu la chance d'avoir aussi un attaché de presse, Jean-Paul Barkov, qui était très motivé et qui a tout fait pour que ça fonctionne, quoi. Voilà.
En 1971. Et il y a une autre surprise qui est arrivée en juillet, je sais
oui,
plus.
Baptiste,
voilà, juillet 71.
Le fiston.
Il est arrivé, mais par contre, ça vous a rendu apparemment malheureuse. Vous avez dû le laisser.
Ah bah oui, bien sûr. Bah, on s'est dit, c'est bien, ça tombe bien, on va faire un enfant. D'ailleurs, moi, je rêvais d'avoir un bébé. Mais on s'est dit, comme c'est une période calme où on n'a pas grand-chose à faire, ça va tomber très bien. Bah, juste, c'est tombé à ce moment-là et... On n'avait pas imaginé, disons, l'ampleur du succès qui nous a bien sûr entraînés dans les galas, dans les spectacles en tout genre, dans les télés, les radios. Donc, c'était pas évident pour m'occuper de mon petit bébé de pouvoir cumuler les deux.
Et vous aviez même eu quelques déconvenus sur scène.
Oui, oui, oui. Ah, bah, c'est pas que ça peut arriver. Bah, oui, parce qu'évidemment, comme il a fallu partir en tournée. En plus, Baptiste, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie et tout ça. Hein, donc, Baptiste, on m'avait dit qu'il naîtrait fin juin et puis il est né le 6 juillet. Donc, la tournée démarrait le 15 juillet. Donc au moment où j'ai accouché et puis je suis partie, quoi. Alors j'avais des montées de lait à l'occasion. Et j'avais une jolie robe à l'époque et tout à coup je me retrouvais trempée. Enfin, c'est tous les malheurs d'une jeune mère, quoi.
Mais en tout cas, deux bonheurs cette année-là. Et puis peut-être un troisième, ça je ne le je savais absolument pas. On vous remet le disque d'or des mains de Dalida. C'est
oui,
Dalida
c'est
qui
vrai,
vous met pour la Ventura.
Oui, pour la Ventura. Je me rappelle très bien chez Guy Lux. Oui, oui.
Elle vous remet le disque d'or. Et puis vous étiez toute une bande du showbiz avec Joe Dassin, c'est bien ça ?
Il y avait Dassin, oui. Je ne me rappelle même plus qui y avait. Mais enfin, il y avait tous les chanteurs du moment. Oui.
Et puis vous, voilà, vous poursuivez votre route du succès. Premier disque d'or remis des mains de Dalida. Et puis en 1973. Là, c'est l'apogée. C'est l'apogée avec un tube énorme. Mais vraiment, je crois que tout le monde connaît cette chanson.
Oui.
Le bon cidre doux made in Normandie.
Oui.
Vous vous rendez compte du succès de cette chanson.
Ah oui, celle-là, elle a été. Et puis, on a eu la chance aussi, dans l'intervalle, de faire aussi d'autres titres qui se sont très, très bien vendus, comme Le Soleil sur la France, comme Le Prix des Allumettes, comme Laisse aller la musique. C'était toujours des 45 tours qui se vendaient à 1 million, quoi.
Il est là.
Voilà, tout cela, oui, oui. Et voilà, celui-là. Donc, c'est vrai que, comme les 45 tours sortaient régulièrement, tous les 3 mois, en général, 3-4 mois, et voilà, il fallait donc fournir beaucoup de chansons. Et puis voilà, il y a eu Made in Normandie qui est sorti toujours avec la même équipe.
Riva et Thomas,
les deux
auteurs.
C'est ça.
Et vous aviez conscience de votre notoriété à cette époque-là ?
Ah bah oui, quand même, oui, bien sûr. Bah oui, on s'en rendait compte. Bah, petit à petit, comme on faisait beaucoup, beaucoup de spectacles en province, on se rendait compte de l'importance.
Tout le temps en tournée.
Oui, tout le temps en tournée. Ouais, beaucoup en tournée.
Et vous le dites parce que, bon, il y a les succès, il y a l'argent qui commence à rentrer. Et les dépenses allaient de bon train. Et vous écrivez « Moi non plus, je ne contrôle plus rien dans cette période bénie où l'argent semble couler à flot du robinet à chanson. »
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est joliment dit, tiens.
Ouais, bah oui, c'est un peu l'idée, oui.
Et vous décrivez un mode de vie très dépensier. Vous parlez d'ailleurs d'Eric, qui était aussi dépensier.
C'est pas pour critiquer, mais c'est pas moi, c'est lui, pour le coup. Moi, j'ai jamais été dépensière parce que j'ai jamais eu des envies de bijoux, de je ne sais quoi, ou de vêtements de marque. C'est un truc qui m'a jamais intéressé. Par contre, Eric, lui, c'était les voitures. Alors lui, il aurait pu s'acheter s'il avait... D'ailleurs, il en a eu en même temps 4 ou 5, quoi, de la Rolls en passant par la Ferrari, enfin, délirant. Donc, c'est vrai que ça coûtait très cher, ça.
C'était bien, non, pour partir en tournée, non ?
Ouais, non, pas tant que ça. Non, pas, c'était pas une obligation. On pouvait avoir une voiture normale aussi.
Oui, c'est vrai.
Non, mais Eric était très, très branché sur les voitures et puis sur plein de choses aussi qu'il aimait bien, voilà, dans la vie, toutes les choses chères, quoi.
Et puis...
C'était pas mon cas.
C'était pas votre cas. Il disait même que pour lui, le fisc, c'était la Gestapo.
Ouais. Ah ben, c'est malin d'avoir dit ça, parce qu'évidemment, le fisc, il lui est tombé dessus à bras raccourcis. Ils ont trouvé ça, évidemment, ça leur a pas plu du tout. Et puis Eric s'est retrouvé, évidemment, avec des contrôles à n'en plus finir. Et puis comme c'était très, très... c'était n'importe quoi. Notre gestion était lamentable. Il faut reconnaître qu'on n'avait pas du tout l'âme de gestionnaire.
Okay.
On était loin de là. Enfin, il n'y a pas que nous. Je pense qu'autour de nous, tous les chanteurs, on était jeunes et qu'on n'avait pas la notion d'argent, quoi. Ça venait, ça repartait, voilà, c'était comme ça, quoi.
Mais il travaillait deux fois plus.
Ah oui, deux fois plus.
Dans
cette
période, puisqu'il écrivait, il composait pour les autres.
Oui, mais Eric avait tellement de... c'était grouillant, quoi. Il avait une capacité de composition énorme. Donc il avait toujours une chanson sous le coude quand Claude François l'appelait, ou Johnny, ou n'importe qui, ou Sylvie Vartan, ou Sheila, bon. Il avait toujours une chanson à leur proposer.
Un mélodiste,
c'est le mot, oui. Alors après, puis à l'époque, on faisait ça à l'ancienne, il prenait sa guitare sous le bras, il allait chez les chanteurs, il leur faisait gling-gling avec la guitare, ça te plaît ? Non, oui, et puis voilà, ça se passait comme ça.
En 1974, vous sortez votre dernier gros tube, L'amour, pas la charité. Est-ce que vous sentiez la fin de votre duo arriver
dans ces années-là ? Ah oui, complètement. Ah oui, là, on avait été vraiment pressés comme des citrons pendant 4 ans. C'était vraiment une impression qui était devenue assez dérangeante, disons, d'avoir trop fait, quoi, d'avoir été trop ensemble en plus, parce qu'évidemment, dans le duo,
vivre ensemble au boulot,
on était collés, ouais, c'est ça. systématiquement. Et c'est vrai qu'on était un petit peu en fin de course, là. Oui, 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 ça. On n'avait qu'une idée, tous les deux, c'est de passer à autre chose, quoi, de un peu varier, disons, le boulot. Puis Eric, surtout, avait l'idée de faire sa comédie musicale. C'était son rêve depuis qu'il était très jeune. Et il avait été voir Capitaine Courageux avec Spencer Tracy, un ouais. film qui retraçait, pareil, les histoires du Mayflower, des émigrants venus d'Europe. Et lui, dans sa tête, il voulait faire une histoire là-dessus. Et quand on a décidé d'un commun accord d'arrêter les 45 tours en duo, il s'est attelé à la tâche avec Guy Bontempelli et ils ont écrit le Mayflower. Ça leur a pris pas mal de temps et c'était formidable parce que ça nous a permis, nous, de faire un break. Et on était très contents, et lui et moi.
Et puis, vous, justement, dans la troupe du Mayflower, vous rencontrez le deuxième, ou en tout cas l'homme de votre vie.
Ah, c'est pas dans la troupe du Mayflower, c'est bien avant, c'est un an avant. Parce qu'en fait, Mario faisait partie de la troupe Attention.
Avec Nicole Rieu.
Nicole Rieu. Ils avaient sorti un joli succès appelé Je suis. Mmh. Et nous, quand on, en 74, donc quand on, parce que tous les ans, on préparait la tournée d'été, hein, tous les chanteurs préparaient la tournée d'été. Et puis à l'époque, il fallait une première partie, c'était pas que nous, il y avait. Et puis c'était génial, parce qu'en plus, on se sentait super bien avec les copains. Alors on avait pris pendant. On a fait 5 tournées avec Michel Jonas, qui démarrait, Charlotte Julien, C. Jérôme et nous. 5 tournées, parce qu'on faisait aussi la tournée d'automne, de printemps, d'été, de tout ce qu'on veut. Et en 74, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être un petit peu varier la première partie. Et à l'époque, donc, Michel Fugain était en pleine gloire avec le Big Bazar. Moi, j'adorais ça. J'étais allé voir sur scène, je les avais trouvés fabuleux. Et puis, je dis, oh, ça serait bien qu'on ait un groupe derrière nous qui danse, qui chante, très coloré et tout ça. Et là-dessus, la troupe Attention a été requise parce qu'ils avaient fait ce joli succès et qu'ils étaient 8 et qu'ils faisaient exactement ça. Ils faisaient nos chœurs en même temps, ils faisaient des ballets et Mario faisait partie de cette troupe-là. Voilà, c'est là qu'on s'est connus. Donc, c'était bien avant le Mayflower. Nous, on a eu cette grande chance, justement, ce qui n'est pas donné à tout le monde, avec Eric, c'est de rencontrer nos futurs mari et femme en même temps, pratiquement. Donc, il n'y a pas eu un qui, comme souvent dans les couples, quand il y a des séparations, c'est toujours embêtant parce qu'il y en a un qui a rencontré quelqu'un d'autre et puis pas l'autre. Et nous, on a eu cette chance de rencontrer la personne qui, voilà, avec qui on va se mettre ensemble par la suite, en même temps. Donc, Eric recherchait, on était déjà à l'époque en plein idée de Mayflower, de monter la comédie musicale, et Eric recherchait des jeunes femmes jolies, qui chantent, qui dansent. Et il est tombé sur Pascal Rivaud, qui correspondait à Megève, qui correspondait complètement à ça, et qui était aussi très, très talentueuse. Et donc, avait d'ailleurs joué un film avec Johnny, qui a eu son heure de gloire, et qui était donc aussi en couple avec Robert Hossein. Enfin, voilà, les deux. Bah oui.
Le showbiz.
Le showbiz. Et en fait, Eric est tombé amoureux d'elle. Et voilà, donc c'est vrai que on n'était pas tous les deux, voilà, chacun avait son compagnon futur et tout allait bien.
Et pourtant, vous allez finir à 4 dans le même appartement.
Dans le même appartement. Bah oui, on avait la chance d'avoir un très grand appartement.
Mais
donc,
c'est hippie comme vision de la vie.
Ouais, ouais, non, c'était génial. Bah, on répétait au même endroit tous les quatre. Hein. On a fait ça quand même plusieurs mois, salle Playel. Et puis, nous, l'appartement, il faisait 600 mètres carrés, donc on ne se gênait pas, hein, loin de là. Donc, on pouvait, chacun avait son petit coin et tout allait bien.
Et puis, vous allez même avec Mayflower aller aux États-Unis.
Oui, on a fait la première à Washington.
Faire des fêtes mémorables dans l'avion avec plein de substances.
Ah, il y avait tout ce qu'il faut. Oui, oui. Bah oui, c'était l'époque qui voulait ça. Hein.
Ouais, ça, ouais. C'était quoi? C'était léger, c'était.
Oh oui, c'était très bon enfant, très joyeux, très. Puis surtout avec toute la troupe, on s'entendait très bien. D'ailleurs, je suis restée amie avec la plupart d'entre eux. Ouais.
Et après, bon, le duo se sépare et Eric connaîtra à nouveau le succès en 1980, entre 80 et 81, avec le tube de l'été.
Évidemment. Dans les t-shirts, dans les il l'avait faite avec Barbe Olivier, celle-là. Didier. Il l'a faite avec Didier Barbe Olivier.
Avec Didier Barbe Olivier. Et là, il entame une période un peu psyché rock à la David Bowie.
Voilà, à la David Bowie, c'est vraiment ça. Il se maquillait. Mais il était heureux en même temps. Ça le changeait un peu du duo. Ouais. Ça lui permettait aussi de faire des choses en solo. Moi, de mon côté, ça m'allait très bien. Je pouvais me consacrer à d'autres choses. Chacun était très bien dans son coin, quoi. On avait chacun nos activités. Et voilà.
Et vous avez fait justement du théâtre.
Oui, j'ai fait du théâtre
vous
à ce moment-là.
Vous rêviez de faire
ouais,
du théâtre
ouais, ouais.
Et vous commencez une nouvelle vie.
Oui, c'est ça. Mmh.
Jusqu'à là, il y a quelques années, vous avez même monté une pièce avec vos
oui, mes enfants.
Deux enfants.
Oui, oui, oui.
Deux
toute
enfants.
La famille, toute la famille. Oui, oui.
Jusqu'au jour où, sans un sou, vous écrivez, Éric Chardin revient vous voir pour reformer le duo.
Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Oui, bah, on s'est dit pourquoi pas. Il y avait du temps qui était passé. On s'est dit, allez, repartons, bien sûr. Surtout qu'il y avait de la demande, quoi. Les gens étaient contents, quoi. Ils nous reprenaient. Alors, disons, il fallait chanter les anciennes chansons, puis on pouvait rajouter aussi les nouvelles.
Oui.
Non, non, ça s'est toujours bien passé.
Et puis, on peut dire, et là, j'en profite, puisque c'est, je pense, ma chanson préférée de votre duo, avec Éric, vous revenez, et surtout, vous ne changez pas.
Heureusement qu'il y a toi, ah. Tu ne changes pas.
Oui, mais ça, c'était bien avant, c'était 73. Ouais, le prix des allumettes. C'est avant Made in Normandie.
Mais oui, mais comme le prix des allumettes,
bah
vous
oui,
ne changez pas.
Voilà, c'est à cause du texte.
C'est
j'ai
ça,
compris, comme... mais non, j'ai cru que c'était une question de.
Non, comme le prix des
timing,
allumettes,
ouais,
vous
ne
changez pas.
D'accord.
Et vous revenez en force en 97 avec un monsieur qu'on connaît un tout petit peu ici. Non, avec Jean-Pierre
avec
Pasquali.
Jean-Pierre, oui, oui, bien sûr.
Qui vous fait sortir une compilation et vous remet sous le feu des projecteurs.
Absolument, oui.
Et cette ferveur du public vous a redonné envie de monter sur scène, vous a poussé sur la scène, malgré là des différends peut-être un peu plus sérieux avec Éric.
Oui, non, oui, oui et non.
Des histoires
parce
de contrat,
que... Oui, c'est ça, mais après ça s'arrangeait, quoi. On arrivait toujours à trouver un terrain d'entente.
Vous passiez
pas
à autre chose.
Oui, il n'y a pas de raison, oui, oui.
Et puis en 2010, vous écrivez, il tombe malade.
Oui.
Et je vous cite, jusqu'au bout, il voudra s'en sortir.
Oui.
Sauf qu'il nous quitte en 2012, emporté par la maladie.
Mmh.
Et entre-temps, vous vous réunissez une dernière fois pour un album.
Oui, c'est
produit
ça.
Produit par... Oh. C'est merveilleux. Et puis, regardez ce que je vous ai
par
trouvé.
Par Baptiste, hein, le fiston.
Produit par Baptiste.
Baptiste Chardin, bien sûr, un film avec toi. Oui, oui, ouais, c'est ça.
C'est son premier 45 tours.
Oui, c'est son premier 45 tours. Oui, oui, il était jeune, là.
Comment avez-vous vécu ces j'aime pas dire ces derniers moments, mais ces années où toute la famille s'est...
Oui,
famille...
s'est regroupée.
Des années 70, si je
bien
me permets,
sûr, bien
s'est retrouvée.
Oui.
Comment vous avez vécu
tout
ça?
On l'a très bien vécu, parce que Éric, à ce moment-là, se sachant quand même un peu diminué, forcément, était toujours passionné. Je crois qu'il aurait, jusqu'au bout, il était passionné par son métier. Quoi. C'est quelqu'un, jamais vu quelqu'un d'aussi passionné que lui. Et il avait l'idée, il avait la chance d'avoir organisé chez lui un sous-sol avec un petit studio d'enregistrement, parce qu'il avait aussi des difficultés par la suite à se déplacer et tout. Et donc, on a fait le Made in France, là, celui où on a repris tous
les
duos.
Photo et la
voilà,
même photo,
et la même photo, oui, qu'on était... Et donc, on a fait ça chez lui. Donc, ça lui permettait, lui, de rester dans son environnement. Et on avait l'idée, on s'est dit, tiens, c'est lui, d'ailleurs, qui m'en a parlé le premier. Il a dit, tu te rends compte? Dès l'instant où on a... Alors lui, il s'énorgueillait de ça. Parce qu'il disait, avant nous, le duo ne fonctionnait pas. Hein, à part les Américains, Sonny and Cher, tout ça. Bon. Mais en France, c'était très, très frileux. Et dès l'instant où on a fait du succès avec le duo, tout le monde a embrayé. Alors là, il y a eu Johnny et Sylvie, il y a eu Shelley Ringo, il y a eu, à part la suite, Peter Sloan. Enfin, qui n'a pas eu. Puis tous les duos occasionnels dans les émissions, on a vu plein de duos se créer... Avant, ça ne se faisait pas, enfin, occasionnellement, mais pas comme ça. Et surtout, ces duos autres que nous ont eu énormément de succès aussi. Alors, on s'est dit, allez, on va reprendre chaque duo. C'était un petit gag, un petit clin d'œil. Et pour nous, et on riait parce qu'Éric avait il avait quelques difficultés à chanter des chansons qui n'étaient pas les siennes. À chaque fois qu'on lui imposait un titre, c'était l'horreur, il n'y arrivait pas et tout. Et là, bah, curieusement, d'abord, on les connaissait, c'est vrai, ces chansons-là, on les connaissait bien. Et on a donc pris beaucoup de plaisir à réenregistrer les duos des copains.
Et puis il nous quitte en 2012, donc maintenant il y a 12 ans.
12 ans.
Est-ce que, je sais que vous en parlez souvent, alors c'est un sujet quand même qui m'intéresse, est-ce que vous gardez contact avec lui? Je vous ai entendu parler de ces sujets,
oui, oui.
Et dans le livre, il y a toute une partie sur la spiritualité, et sur
les
synchronicités. Les
synchronicités, moi je suis très... très sensible à ça.
Est-ce que vous l'avez revu une fois dans
vos
rêves ?
Non, alors je l'ai revu dans mes rêves très précisément, pas longtemps après qu'il s'en aille.
Oui.
Et il m'a fait vraiment un petit clin d'œil très sympa et vraiment je le voyais, mais alors comme si c'était en réalité, quoi. C'était très très... contrairement aux rêves où ça resterait flou, là c'était pas du tout le cas. Donc je pense que tant mieux pour lui d'ailleurs, il a fait son petit clin d'œil, puis après il avait autre chose à vivre derrière.
Il avait plein de compositions.
Plein de compositions, retrouver les vieux copains là, qui étaient déjà partis avant lui.
Joe Dassin.
Voilà, c'est ça, et c'est Jérôme et les autres. Et voilà, donc c'est pour ça que, compte tenu que dans ma famille, j'ai aussi ma maman, ma grand-mère qui était très branchée là-dedans.
Et votre fille.
Et ma fille aussi.
Lisez le livre de Stone, il y a une histoire totalement incroyable.
Incroyable, oui.
Ça lui est
tombé dessus tout à fait à l'insu de son plein gré.
Et elle ne veut plus trop en parler d'ailleurs.
Elle ne veut plus trop en parler parce que maintenant elle est passée à autre chose. Et que voilà, c'est... faut pas non plus se laisser trop bouffer quoi, par
bien
ça.
Sûr.
Quoi, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que quand on approche ce genre de choses, on se dit qu'il va se passer autre chose quand on sera parti de l'autre côté. Ça, c'est une évidence.
Et puis vous êtes aussi, j'aimerais l'aborder parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mm-hmm. Vous êtes une femme de combat.
Oui.
Une femme de combat pour les avancées dans tout genre.
On essaye.
notamment, vous en parlez souvent, le droit de mourir dans la dignité.
La dignité, oui, avec Jean-Luc Romero.
Qui vous tient à cœur.
Plus de 20 ans que je suis à leur côté, oui.
Plus de 20 ans.
Et là, a priori, on devra avoir des bonnes nouvelles. Monsieur Macron nous a dit que, voilà, que la loi, enfin, elle est passée. Il serait temps, depuis le temps qu'on attend ça. Surtout grâce à la belle lettre de Françoise Hardy qui disait qu'elle voulait s'en aller. Enfin voilà, il y a Lynn Renault aussi, est très efficace là-dedans. Il y a tellement de personnalités qui disent qu'il faut que la loi passe. C'est pas normal qu'on puisse pas décider, si vraiment on est au bout du rouleau, de dire bon, j'arrête tout. Et alors, soit par le suicide, c'est épouvantable, ou alors aller à l'étranger, c'est épouvantable aussi. Donc il faut vraiment qu'en France, on ait cette loi qui nous permette de décider de son départ. Voilà.
Bien sûr, et vous êtes aussi une grande défenseuse des animaux.
Oui, alors ça aussi.
À Commentry, il paraît que c'est une animalerie là-bas.
Non, peut-être pas quand même. Oh, j'ai quelques chats, mais bon, ça va. Mais j'essaye de la. Bah, récemment, on a emmené une chienne. On trimballe des bêtes. Hier matin, j'étais à Orly à 6h30 du matin. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent de La Réunion ou de la Guadeloupe qui n'ont pas leur passeport, mais qui se font adopter en France parce qu'ils mènent des vies horribles, vraiment atroces. Et il a fallu récupérer un chien qui arrivait de là-bas. Et comme il n'y avait personne, je me suis proposé de la prendre. Et puis après, quelqu'un est venu le récupérer. C'était un chien magnifique. Voilà, donc on essaye de se rendre utile quand il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Ouais, beaucoup, beaucoup.
Et avant de se quitter, il y a un point qui m'a marqué, c'est peut-être la dernière page de votre livre. Vous écrivez que vous préféreriez que l'on retienne de vous vos combats plutôt que votre coupe de cheveux ou vos bluettes comme la Ventura.
Oui, entre autres.
Vous n'êtes pas un peu dur avec vous-même ?
Non, je ne suis pas dure du tout. Comme je disais tout à l'heure, je relativise. Parce que bon, faut pas non plus s'imaginer que voilà, les carrières de chanteurs sont plus ou moins denses. Quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que nous, quand on prend une carrière comme M. Aznavour ou des gens comme ça, nous, on n'est rien à côté. Quoi. On a fait quelques petites chansons.
Vous avez apporté tellement de bonheur aux gens.
Bien sûr, on a apporté du bonheur. Mais je veux dire, il faut quand même se rendre compte de la situation. Mmh. Et comme j'ai la chance d'avoir aussi dans la vie d'autres centres d'intérêt, je me dis que voilà, il y a aussi des trucs qui sont quand même importants. Voilà.
Mais vous avez raison, en tout cas, on retiendra la rayonnante, la
c'est
sympathique
gentil.
Et l'indémodable Stone.
Merci, c'est
de
très
Stone
gentil,
et Chardin.
Oui.
On va se quitter, voilà, je nous mets en fond là.
Allez.
La Ventura. Merci Stone d'être
Merci,
venu.
Merci Gilles, c'était très gentil tout ça.
Sur Mélodie Radio, regardez.
Oui. Ça, il est là.
Le coffret. De Marianne Mélodie et bien sûr les livres de Stone, celui-là et ceux que vous êtes en train de faire la promotion dans les salons du livre et partout.
Oui, c'est ça. Oui, j'en vends beaucoup. Oui, ça va.
Merci Stone.
Merci Gilles.
Mélodie, la radio vintage forever.